Cette émission vous est proposée avec la triomphante participation de Tim O'Connell, Berzingue, Rome175, Erienne, Edouard Naïm, Jeff Simon, Sébastien, Nathanad, Fabien Massol et Julien Rose Rosette. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle où on parle technologie, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et c'est déjà l'épisode numéro 180. Nous sommes en mars 2016 et je suis aujourd'hui avec deux co-animateurs de talent. Le premier d'entre eux, mon vieux compagnon de route Rendez-vous Techienne, Jeff Clavier. Comment vas-tu, Jeff ?
Eh bien, ça va très bien. Bonjour Patrick, bonjour Jérôme. C'est un grand plaisir de vous rejoindre parce que ça fait un petit moment que malheureusement, j'avais pas réussi à être avec vous sur le Rendez-vous Tech. Donc, c'est un plaisir de vous retrouver.
Bah, merci d'être là. Surtout que normalement, à partir de dans un mois, je serai au Japon. Donc, ça va être compliqué aussi pour les horaires. Mais au moins, on peut en caser un maintenant. C'est très bien. Et tu sais, c'était l'anniversaire de Yann, notre ami Yann, d'il y a très longtemps, qui avait commencer le Rendez-vous Tech avec toi et moi, c'était son anniversaire il y a quelques jours et ça m'a fait penser que en fait Jeff t'es vraiment là depuis le début quoi. Lui aussi était là depuis le début, il y est plus mais on a commencé ensemble.
Eh ben ouais, ça ne rajeunit pas tout ça. Hein.
C'est vrai. Et comme vous l'avez entendu puisque Jeff l'a mentionné, Jérôme est avec nous. C'est Jérôme Kainborg qui est avec nous pour cet épisode. Comment ça va, Jérôme ?
Eh bien, écoute, ça va très bien. Bonjour, bonsoir à tous, hein, selon l'heure où vous nous écoutez. Et je suis en train de dire le fan club de Jeff Clavier est en pleurs de pas l'avoir eu pendant aussi longtemps et de ne pas avoir d'émission pendant que tu seras au Japon. Donc, ouais. Mais il y a un vrai fan club hein, autour de Jeff. Hein,
ah bah écoute.
Je le vois dans les commentaires de Frenchpin, tu as des fans.
Bah, c'est vrai que l'émission en plus de M6 qu'on a tous regardé a fait son petit effet aussi, c'était ouais. Très sympa. Jeff dans son quotidien, il y a plein de gens qui ont envoyé des tweets en disant ah c'est le tapis sur lequel il marche pendant qu'il fait l'émission parce qu'il était dans
le truc. Eh bien oui, c'est le tapis sur lequel je marche pendant l'émission avec mon vieux casque pourri qui tape aussi donc. Désolé si vous entendez.
Ouais, on en parlait aussi. Tu disais que tu l'avais acheté pour World of Warcraft il y a 10 ans pour jouer à World of Warcraft. Donc t'es aussi un gamer quoi.
Ah oui, j'étais un gamer. J'étais même un raider. Donc je faisais des raids pendant au moins 3 ou 4 ans. Et puis après c'est devenu complètement incompatible avec ce que je faisais, donc j'ai complètement arrêté. Mais ouais,
C'était l'époque où on pouvait encore faire des raids à 40 au tout début de World of Warcraft. Ouais. Moi, je m'en souviens de ça.
Ah oui, bah toi, t'étais aussi un leader de guild, Jérôme.
Ah, si moi, j'ai monté ma guild plus tard, mais j'étais pas là pendant la bêta du jeu, mais je suis arrivé pas longtemps après. Et oui, on va dire que j'ai 5 ans de ma vie qui se sont bien engouffrés quand même dans World of Warcraft.
Qui ont disparu.
Qui ont disparu. Il y a pas de photo de moi pendant 5 ans, à aucune soirée. Et à aucun anniversaire de pote.
D'ailleurs, je disais, c'est l'anniversaire de Yann il y a quelques jours. C'est l'anniversaire de Jérôme, là, dans quelques minutes.
Dans quelques heures.
Enfin, pour moi, tu vois, je suis en Finlande aujourd'hui, donc dans 50 minutes.
C'est bientôt, effectivement, c'est mon anniversaire.
Ouais, donc 11 ans, ça fait 11 ans qu'on avait commencé tous ensemble, à des endroits différents World of Warcraft, et puis ça nous a tous réunis, c'est quand même une formidable aventure, que nous allons continuer immédiatement en parlant de Facebook.
Oui, parce que quand même, qu'on rappelle à nos auditeurs que la raison pour laquelle j'ai fait le Rendez-vous Tech avec toi, c'est parce que j'étais un grand fan d'Azeroth.fr, et que à la Invitation...
C'était la Worldwide Invitational
ouais. À Paris, c'est là où on s'était rencontrés pour la première fois.
C'est vrai.
2008.
T'étais venu me voir et on s'était croisés comme ça et on avait discuté. Ouais, c'était il y a bien longtemps. Ouais, ça fait presque 10 ans.
C'était. Et moi, c'est pareil, hein, Patrick. Je t'ai rencontré parce que j'écoutais Azeroth. Hein, ouais. J'étais venu te demander des conseils pour faire mon premier podcast.
C'est vrai aussi, ouais. Ah là là, il a été à l'origine de tellement de choses, ce podcast, mais c'est vrai que rien de tout ce que je fais aujourd'hui n'aurait été possible sans cette petite émission. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous qui écoutaient encore aujourd'hui avaient commencé à écouter mes délires podcastiques au moment d'Azeroth.fr. Ah, que de souvenirs. D'ailleurs, l'émission Azeroth.fr va fêter ses 10 ans dans quelques mois. Je pense qu'on va essayer de faire quelque chose, un petit truc. On verra. Le 7 septembre, je crois, ou le 6 ou le 7 septembre. Bon, donc, je disais, Facebook et Mark Zuckerberg, en fait, il y a un truc qui semble avoir le vent en poupe dans la Silicon Valley et dans le monde de la tech en ce moment. Je me suis dit qu'on pourrait en toucher quelques mots, puisque Mark Zuckerberg aurait visiblement, serait complètement obnubilé par le live streaming. Alors, on sait qu'il y a du live streaming depuis quelques temps, ici et là, mais depuis, on va dire, quelques mois, un an, ça a vraiment commencé à devenir un phénomène qui grossit en popularité sur le net. Et déjà, on a une sorte de consolidation qui semble être en train de se faire. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, de Meerkat, qui était le premier outil de live streaming sur smartphone, qui est sorti quelques jours avant Periscope, l'outil de live streaming de Twitter. Et depuis, il semblerait que Facebook travaille excessivement fort et excessivement vite, sous l'impulsion de Zuckerberg, qui y croit beaucoup, pour mettre en place ces outils de live streaming. Ils existent déjà pour les célébrités, et ils voudraient les mettre en place pour tout le monde. Et ils ont même des aménagements de l'algorithme pour montrer les vidéos live un petit peu plus haut dans le newsfeed. Donc, il semblerait que non seulement ça soit très populaire, mais en plus c'est allé très très vite, puisqu'on a déjà les deux gros réseaux principaux, c'est-à-dire Twitter et Facebook, qui sont en train qui ont déjà leur technologie. Et on avait bien sûr Google qui était un petit peu précurseur avec les Hangouts, même si ça a pas pris exactement de la même manière. Donc, je voulais peut-être donner la parole à Jeff en premier. Jérôme, toi, t'es un utilisateur récurrent de Periscope, tous les jours même. Mais je voudrais prendre la température de la Californie et de la Silicon Valley. Est-ce que c'est une impression que j'ai moi d'ici, ou est-ce que c'est effectivement un truc qui a le vent en poupe, le live streaming, Jeff?
Je pense que la grosse impulsion autour du live streaming, c'était South by Southwest l'année dernière. Donc, c'était à peu près à cette époque-ci, en 2015, que Meerkat et Periscope étaient les deux nouvelles applications que tout le monde devait utiliser à South by, qui est une grosse conférence à Austin qui est très propice au lancement de ce genre de produits.
Ouais, il y avait, si je ne m'abuse, même Uber avait été lancé là-bas. Il y a, Twitter a commencé là-bas. Enfin, c'est vraiment une grosse convention pour les lancements, ouais.
Pour les lancements, ouais. Et donc, la grosse bataille qui s'était déclarée entre Meerkat et Periscope, Periscope qui était une start-up qui a été rachetée pour 100 millions de dollars par Twitter, c'est-à-dire que c'était pas
avant
initialement
même qu'ils sortent le produit, hein.
Tout à fait. C'est en gros, les gens de Twitter ont vu le produit parce que les fondateurs de Periscope utilisaient Twitter en termes de distribution, et donc instantanément ils ont racheté le produit, ils ont racheté l'équipe, le produit, pour une centaine de millions de dollars avant même que ça sorte, et ils l'ont lancé en tant que produit Twitter. Et aujourd'hui, donc à peu près un an plus tard, on peut dire que c'est Periscope qui continue à grossir et qui a vraiment créé je dirais une marque derrière le live streaming utilisé par les masses, par les gens des médias et par les célébrités. Meerkat, lui, très récemment, il y a à peu près un mois, a commencé à dire nous, en fait, on va pivoter parce qu'on a perdu la bataille. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de partir sur une autre avenue. Je dirais que quand Meerkat a fait son tour de financement d'une douzaine ou quinzaine de millions de dollars avec Greylock, c'était un peu l'apogée, je dirais, de l'intérêt autour du live streaming. Et en gros, très très rapidement, peu après l'annonce du financement, on a commencé à entendre parler de Meerkat de moins en moins. Je dirais qu'il y a eu deux fades. Donc un fade, c'est quelque chose qui semble être super intéressant, tout le monde en parle, et puis trois semaines ou trois mois plus tard, on n'entend plus parler. C'était donc les applications anonymes du genre Secret et le live streaming. Le live streaming, ouais. Faut pas oublier que le live streaming, en fait, c'est quelque chose qui date quand même d'il y a un bout de temps, puisque moi j'étais un investisseur dans Ustream qui a été racheté par IBM cette année. On a aussi parlé de Twitch, qui était à la base Justin TV. Donc ce sont deux boîtes qui se sont lancées en 2006-2007, qui ont quand même grossi de façon non négligeable en termes d'audience et qui ont choisi les deux, en fait, des niches particulières. Donc Twitch, c'était essentiellement la partie gaming, les jeux vidéo. Et c'est donc une boîte qui était rachetée pour 1 milliard par Amazon. Mm. Et puis, bon, Ustream, belle sortie aussi, mais clairement pas 1 milliard, qui a été rachetée par IBM pour rejoindre son offre cloud.
Donc, du coup, On a eu une sorte de terrain qui a été préparé par ces applications qui existent depuis un moment, effectivement. Moi, je me souviens que j'avais fait des lives sur Ustream à une époque. Mais c'était pas vraiment pour le grand public. Et là, l'étape de simplification qui a été amenée avec ces outils sur smartphone, on a l'impression que ça a presque été tellement vite parce que les gens avaient l'habitude et puis cette solution convenait à tout le monde et donc ça s'est établi tout de suite. Il y a eu Twitter, Facebook, paf, Meerkat a fait trois petits tours et s'en est allé et donc maintenant c'est presque l'industrie du live streaming est stable alors qu'elle n'a été créée pour tout le monde qu'il y a un an à South by Southwest comme tu le disais.
Ouais, j'ai une vision un petit peu différente. Donc effectivement, tu utilisais Ustream dans les débuts du rendez-vous tech où on te montrait dans ta cuisine. Et je me rappelle que je t'avais récupéré un compte gratos, un truc comme ça, si je me rappelle bien.
Exactement.
Dans ces temps-là, c'était vrai que tu avais besoin d'une certaine infrastructure. Comme tu le dis, la partie mobile a permis franchement de passer la partie création à l'étape suivante. Je pense que le gros problème, c'est la découverte, c'est-à-dire comment trouver les streams qui sont intéressants, ce qui a toujours été un souci pour Ustream et qui sera un souci pour n'importe quelle plateforme. Sans même mentionner le fait que t'as des tonnes de mecs qui ont tendance à montrer leur partie privée sur des live streams et donc il faut avoir un système de curation où littéralement tu as des dizaines, des centaines de gens qui vont regarder en temps réel les différents streams pour couper les choses qui sont inappropriées. Ce qui est intéressant pour moi, c'est effectivement cet intérêt de Mark Zuckerberg qui va en gros pour relancer, et c'est pour ça qu'en fait, je pense qu'il y a eu Periscope et Meerkat, tu as l'enthousiasme qui a un peu diminué, bon Periscope a quand même des beaux chiffres d'utilisation et d'engagement, et le fait que Facebook s'y mette, là, pour moi, c'est en fait le deuxième départ du live stream, et si on regarde en fait les différentes réussites de Facebook, ils ont vraiment un beau produit qui permet de faire la partie création et que derrière les algorithmes de découverte de Facebook lui permettent de vraiment trouver ce qui est en train de se passer, là je pense que le live stream peut vraiment décoller.
Ouais, c'est vrai que ça, c'est leur arme secrète. En fait, ils ont un tel public auquel présenter ces vidéos comme tout le reste, que effectivement, s'ils savent bien les cibler, ça peut donner quelque chose de vraiment réussi, enfin successful, de vraiment qui réussissent à drainer une audience. Jérôme, je le disais, toi, tu utilises Periscope tous les jours. Tu fais une émission, une quotidienne de la tech tous les matins, sur Periscope. Comment est-ce que tu as vécu cette année depuis la création? Est-ce que tu sens aussi, je t'entendais dans une émission, je sais plus si c'était aujourd'hui ou hier, où tu disais que il y a quand même pas énormément d'émissions incroyables. Il y a beaucoup de gamins qui...
Il y a beaucoup. La grande mode en France, c'est chicha et blabla, c'est quoi, des jeunes qui s'emmerdent et qui fument la chicha. Qui fument la chicha et qui s'insultent un peu sur... C'est en train
ça
de
l'air,
très
ça
vite
l'air
prendre...
très riche, hein.
C'est en train de très vite prendre une, surtout depuis quelques mois, parce qu'il y a eu deux affaires en France, pas très glorieuses. Il y a le footballeur qui, sur Periscope, a dit des trucs pas très gentils sur son entraîneur. Ça a mis Periscope, j'irais, sous le feu des projecteurs en France, mais pas d'une bonne façon. Et puis, ce qui a un peu apporté le coup de grâce, c'est ce prisonnier qui, en France, s'est mis à faire un Periscope de sa prison. Bon, il y avait déjà eu des histoires hein, de personnes qui avaient fait des trucs avec Facebook de leur prison et tout ça, mais là c'était un live de la prison. Donc là, Periscope n'a pas une très bonne réputation en France, et c'est vrai que quand moi je regarde le contenu, attention, hein, je suis pas en train de dire que tout est acheté. Il y a des très, il y a des choses très intéressantes à part mon émission, mais c'est vrai que mon émission, je commence à me dire bon. En fait, moi, je l'utilise que comme un média, mais l'image de marque de Periscope, il va falloir qu'ils interviennent très, très vite, en tout cas en France, pour pas que ça devienne chatroulette, quoi.
Ouais, on se souvient effectivement de chatroulette. Les gens qui, pour ceux qui se souviennent pas, c'était un service qui vous connectait en chat vidéo avec une personne au hasard, d'où l'idée de la roulette. Et malheureusement, ça a très vite dégénéré en exposition de parties intimes, comme on disait tout à l'heure.
En chat boulette, oui.
Mais donc, est-ce que tu vois, comment tu vois l'arrivée de Facebook? Oui, pardon. Vas-y.
Ouais, non, ce que je voulais juste dire, c'est que le problème qu'a exposé Jeff, c'est le fond du problème. Ce que je voulais juste dire par rapport à ce qu'avait dit Jeff, c'est que le live streaming, ça n'a pas été inventé. Effectivement, ça existe depuis assez longtemps. Et les premières tentatives de faire du live streaming, dès qu'on a commencé à vouloir faire de la vidéo sur Internet, finalement, moi, j'entendais les gens des médias, de la télé, me dire « C'est bien beau, là, vos petites vidéos sur Dailymotion, YouTube, mais tant que vous n'aurez pas la puissance du direct qu'à la télé, la vidéo sur Internet restera un épiphénomène. » Bon, ils se sont un peu plantés, parce que YouTube n'a pas attendu le live pour commencer à faire des grosses audiences. Mais là où ils n'avaient pas tort, c'est qu'il y a une vraie magie du direct qui n'existe pas. Le gros problème du direct, vous parlez de Ustream, il n'était pas que technique. Il était aussi en termes de stabilité, parce que moi, j'en ai fait aussi des lives avec Ustream, même avec YouTube Live et tout ça. On avait des vrais problèmes et des émissions qu'on n'a pas pu faire parce que ça ne fonctionnait pas.
Jusqu'à il y a encore deux ans, c'était un peu compliqué.
Ce qui a vraiment très bien marché avec Periscope, c'est que tu l'allumes une minute après, tu es en live, même si tu es en 3G, ça diffuse une image pourrie, mais ça suffit. Tu amènes les gens sur place, quoi. Donc c'est la magie du direct.
Ouais, juste pour abonder dans ton sens sur la magie du direct. Moi, j'étais sur une île dans l'archipel. J'en avais parlé la dernière fois, je crois, dans l'archipel à Helsinki il y a quelques semaines. Je suis sorti, j'ai lancé Periscope et c'est vrai que c'était magique. Mais de mon côté, du coup, j'ai lancé Periscope pour filmer l'île enneigée qui était assez magique. Et vraiment, j'ai appuyé dessus. Et ça a tweeté immédiatement, et vraiment au bout de, je sais pas, 10 secondes, il y a les gens qui ont commencé à arriver. C'était quelque chose d'incroyable de se dire j'allume mon téléphone n'importe où, j'appuie sur un bouton et là il y a des gens qui vont voir par mes yeux en quelque sorte.
Et et l'autre truc qu'on néglige souvent quand on parle du live vidéo, moi je pense que la vraie magie, elle est bien évidemment d'en voir à travers les yeux de quelqu'un, etc. Mais la magie, elle vient aussi d'une chatroom qui est intégrée, c'est-à-dire que ce que disent les gens est intégré à ton image. Le problème des YouTube Live, des Ustream, etc., c'est que la chatroom, déjà souvent, était un peu décalée par rapport à ce que tu disais, marchait plus ou moins bien, et n'était pas intégrée à l'image. Moi, dans mon émission, je le dis souvent, le public et ce que disent les gens dans la chatroom, c'est mon deuxième ou mon troisième présentateur, selon qu'on présente à deux ou moi tout seul. Ce que les gens disent en même temps que moi et leur manière de réagir à ce que je dis, et ça, c'est quelque chose de très nouveau et que la télé ne sait pas faire. Donc là, on a, je pense que Periscope et Mercat, en amenant ça, ont amené vraiment quelque chose de nouveau, cette interaction autour d'une image vidéo qu'on pouvait à la fois diffuser et lire dans son smartphone.
Alors, pour conclure, à tous les deux, hein, mais on continue avec Jérôme, du coup, Facebook, effectivement, s'ils amènent ça et qu'ils réussissent à le cibler correctement, est-ce que tu crois que ça peut faire effectivement du live streaming la prochaine étape après le texte, les photos, les vidéos, maintenant les vidéos live, est-ce que ça peut être le prochain gros truc vraiment?
Ah oui, ça peut même être énorme. C'est, on va dire, aussi révolutionnaire que l'a été la Real TV sur la télé, quoi. C'est surtout, bon, Facebook a l'air de vouloir quand même bien payer les stars pour qu'elles fassent des lives. Mais tout l'enjeu est là.
On a vu qu'ils mettaient plusieurs parfois jusqu'à 100 000 ou plus dollars pour avoir des trucs, des live streaming en fait. Ils font une promotion, enfin un push marketing avec en payant de l'argent, quoi.
C'est génial, c'est avoir du live dans n'importe quel truc de star sans avoir une équipe régie, un camion satellite et tout le bazar. Donc c'est absolument génial. Mais et là je mets un gros mais, le réel danger, Jeff l'a très bien exposé, c'est est-ce que ces plateformes vont arriver à faire le ménage? Parce que quand tu donnes le pouvoir aux gens de diffuser, hélas, parce que l'homme est ainsi fait, tu as pas mal de gens qui en profitent pour diffuser n'importe quoi.
J'imagine les séries, les premiers épisodes de séries très attendues, diffusées en super bonne qualité directement.
C'est même pas là le problème, parce qu'honnêtement, regarder Game of Thrones à travers Periscope, il faut être maso.
Non, mais sur Facebook, tu le mets sur toi.
Ah oui, pardon. Sur Facebook, oui, mais la qualité d'image, elle est. Enfin bon, c'est plutôt pour les événements sportifs que ça sera peut-être plus délicat.
C'est vrai, oui.
Mais le problème, il est plutôt que c'est le syndrome chatroulette. Si t'as pas une équipe de modération, il faut une équipe de modération live qui regarde tous les streams. Il te faut des moteurs qui arrivent à déceler certains trucs. Avec tous les problèmes qu'engendre la modération, parce qu'à la limite, c'est facile d'éjecter des nanas avec des seins nus ou des trucs comme ça. Mais par contre, les mêmes problèmes qu'Instagram, que Twitter, enfin tous les problèmes de censure. Sauf que là, ça doit vraiment se passer en une fraction de seconde. Donc c'est le vrai enjeu va être là. Est-ce que cette vidéo live sur Internet va acquérir une bonne réputation ou une mauvaise réputation?
Ouais.
C'est pour ça. Je pense que c'est pour ça. Je pense qu'il y a un réel avenir pour le live streaming, pour peut-être le sport, peut-être les célébrités, etc. Il y aura toujours une partie décalée en termes de combien de temps est-ce que la plateforme de modération a besoin pour filtrer en gros tout ce qui doit être filtré, parce que après tu as des problèmes de l'ego en termes de c'est un canal R, donc tu peux avoir des gros mots et des seins, mais si c'est pas un canal R, en gros tu peux pas, quoi. Ouais. Donc c'est un énorme problème pour la plateforme de distribution, et je suis sûr que Facebook va faire un excellent boulot sur la partie technique, que ce soit facilité de création, que ce soit qualité de l'image, que ce soit te permettre de trouver les canaux qui sont intéressants. Mais c'est vraiment, à mon avis, pour l'élite des sportifs, des célébrités, etc. Pour, le toi et moi qui voulons juste faire une vidéo en temps réel ou un petit machin, je ne sais pas si ce sera, si les outils s'appliqueront en fait à la longue telle, quoi.
Et bon. Peut-être juste pour terminer, je pense qu'il y a un grand acteur qui manque là-dedans. Je serais pas surpris, c'est un pronostic que je fais, que YouTube prépare quelque chose aussi de son côté, parce que ça c'est quand même le paradoxe, c'est qu'en fait tous les gens qui font du Periscope que je connais, qui font des émissions de qualité sur Periscope ou celles que je regarde aux États-Unis, sont obligés d'enregistrer leur live parce qu'il n'est disponible que pendant 24 heures en replay sur Periscope et le mettre ensuite sur YouTube. Et là, je pense que YouTube a vraiment une grosse carte à jouer en offrant un meilleur outil que l'outil actuel qui permet de faire du live, qui oblige un peu à avoir un ordinateur devant soi pour faire du live sur YouTube. Je serais pas surpris de voir Google, donc YouTube, Alphabet, débarquer avec quelque chose sur le live vidéo. En tout cas, ça serait une opportunité ratée pour eux s'ils ne le faisaient pas, je pense.
Oui, c'est sûr que YouTube, ironiquement, a été très en retard sur ça, et leurs outils YouTube Live étaient catastrophiques. Moi, je me souviens d'opérations qu'on a voulu faire professionnellement sur YouTube Live et que ça a été tellement dramatique qu'on a été obligé de switcher, c'est dur à dire, de switcher sur Twitch. Et c'était, ça a posé de gros problèmes. Ce qui est ironique parce que YouTube, quand même, la vidéo, ils connaissent. Donc.
Ah ouais.
Bon, passons à au deuxième sujet que je voulais évoquer, c'est cette histoire.
Attends, juste un truc.
Bien sûr.
La vidéo, c'est vraiment, et surtout la vidéo en temps réel, c'est vraiment une bête complètement différente. D'accord. Et c'est pas parce que tu as certaines des ressources, les équipes d'ingénieurs les meilleures au monde, que tu pourras sortir un produit qui est vraiment super au niveau création, niveau consommation. Donc, on va voir ce que. Et j'ai toute foi en Mark Zuckerberg et ses équipes, mais on verra un peu ce qu'ils nous sortent.
Ben, c'est sûr, mais d'ailleurs, la meilleure illustration de ce que tu dis, c'est qu'il y a énormément d'équipes super intelligentes et malignes et compétentes qui s'y sont attaquées à ce problème, et il a fallu attendre finalement Meerkat et Periscope pour que ça gagne une certaine légitimité, même si on n'est pas encore au niveau des énormes mastodontes du net, mais il a fallu attendre ces outils-là, et puis peut-être que mine de rien, l'infrastructure aussi, ça joue, il fallait que ça soit suffisamment solide au niveau des vitesses et des tuyaux du net pour que ça tienne également. Donc, ouais, bon. Microsoft, donc, et sa Universal Windows Platform, ils ont fait une annonce il y a une dizaine de jours à peu près, qui était un petit peu cryptique, franchement. On n'était pas certain d'avoir tout bien compris, et j'ai parlé à plein de gens, j'ai lu plein d'articles. C'était pas très clair. Ils parlaient, en fait, de la Xbox One, et ils disaient que, dans un avenir plus ou moins proche, on sait pas trop quand, étant donné que maintenant la Xbox One tourne sous Windows 10, eh bien, ils allaient unifier complètement les plateformes avec le Unified Windows Platform, justement, et qu'ils auraient des Unified Windows Apps qui pourraient tourner sur Windows 10 sur un ordinateur et sur Xbox et sur toutes les plateformes sur lesquelles tourne Windows 10, c'est-à-dire téléphone, tablette, sur Facebook, enfin toutes les, même le HoloLens, enfin les développeurs n'auraient besoin de d'écrire une application qu'une seule fois, puis après ils feraient des adaptations pour l'interface, etc. Mais l'application tournerait sur toutes les plateformes très facilement. Alors c'est pas une idée complètement nouvelle, ils y travaillent depuis un moment, on le savait. Là où c'est un petit peu différent, c'est que d'une part sur Xbox One il y aurait des applications Windows classiques qui pourraient tourner, par exemple une application comme Office. On adjoindrait un clavier, une souris à la Xbox One et ça deviendrait une sorte de mini PC, pourquoi pas. Et puis d'un autre côté, les applications, enfin les jeux qui seraient développés pour Xbox One en tant que Universal Windows Apps seraient disponibles aussi sur Windows 10 en temps et en heure, en même temps que sur Xbox One. Et il y a déjà quelques-uns de ces jeux qui sont arrivés. Alors, ça pose plusieurs questions. D'une part, pourquoi est-ce que les gens achèteraient des Xbox One si ils peuvent avoir le même jeu sur leur PC ? La réponse pouvant être que ben c'est tous des PC et tout le monde n'a pas forcément un PC de gamer. Mon ami Daniel Charby me disait, tu sais, nous, les gamers que nous sommes, auront peut-être un PC de gamer, mais la plupart des gens qui veulent une console, c'est justement pour la simplicité de la console et pour le prix de la console. Donc, ils vont pas forcément avoir les deux. Donc, c'est pas vraiment le même marché, ce qui est pas faux. L'autre question que ça pose, c'est... quid de la console Xbox One elle-même, surtout que Phil Spencer disait il n'est pas impossible d'avoir des nouvelles versions de la console Xbox One en faisant des mises à jour matérielles, donc disons tous les deux ans, une nouvelle version de la console Xbox One, et comme les jeux sont des Universal Windows Apps, eh bien ils pourraient tourner en fonction de la console sur toutes les consoles qui seraient disponibles, toutes les versions de la Xbox One, et ils pourraient comme ça ne plus avoir avoir besoin de faire différentes générations de jeux et ça se passerait de la même manière que ça se passe sur les PC. Les développeurs, bien sûr, seraient intéressés puisque ça ouvrirait énormément le nombre de machines installées puisqu'on ajoute aux quelques dizaines de millions de Xbox One les 100 millions de PC de gamers qui sont déjà installés. Ça grossit tout à coup la cible possible pour les développeurs, donc c'est bénéfique à tout l'écosystème. Il n'empêche, c'est quand même un petit peu étrange comme stratégie. Je vais parler dans un instant du coup de gueule de Tim Sweeney, le président d'Epic Games, mais déjà peut-être une réaction sur cette annonce et sur cette nouvelle stratégie. Quelqu'un veut se lancer, Jérôme ?
Bah, écoute, je pense que de toute façon, c'est vrai que moi, alors je suis plus trop dans l'univers du gaming. Il m'arrive de jouer, mais de plus en plus sur mobile parce que c'est le seul moment où j'ai du temps, c'est quand je suis aux toilettes. C'est pour ça que je joue qu'à des jeux de chiottes en fait. C'est vrai que ce conflit, étant un vieux gamer, il y avait les consoleux et les gens sur PC, et surtout on n'avait pas du tout les mêmes types de jeux. Moi, ce que j'observe quand même comme un observateur lointain, c'est effectivement le rapprochement des deux, et c'est plutôt une bonne chose. Maintenant qu'on me montre un bon jeu de stratégie qui tourne sur console, et peut-être que je me mettrai à la console un jour.
La manette, c'est pas facile.
Non, ouais, voilà, on peut pas tout faire avec un paddle quand même. Comme on peut pas tout faire avec un clavier non plus. Mais après, le fait que Microsoft verrouille le marché, quand j'ai entendu cette news, j'y ai pas trop cru au début. Parce que, j'y ai plus vu une erreur de com, quoi.
Je vais dire la suite, effectivement, parce que c'est peut-être l'aspect le plus intéressant et le plus inquiétant. Ce qui s'est passé, c'est que suite à cette annonce, Tim Sweeney, donc fondateur et président de Epic Games, l'un des gros développeurs de jeux sur PC, un développeur historique, a publié une interview dans le Guardian, je crois, en tirant une sorte de signal d'alarme. Et en disant que ces Universal Windows Apps sont très très bien, c'est très cool, c'est signé par Microsoft, donc ça veut dire que il y a tout un tas de fonctionnalités qui rendent les choses beaucoup plus sécurisées que les applications qu'on utilise aujourd'hui, qui sont les applications Win32, Windows 32 bits. Donc on a en opposition UWA, donc Universal Windows Apps, et Win32. Win32, n'importe qui peut installer une application Win32 sur n'importe quel PC, sous Windows bien sûr. Universal Windows App, par contre, dans l'état actuel des choses, il faut que ça soit signé par Microsoft et ça s'installe uniquement par le Windows Store dans Windows 10. D'où l'inquiétude de Tim Sweeney qui dit « Attendez une seconde, là c'est très gentil cette histoire de Universal Windows Apps, mais sur le long terme, est-ce qu'on n'a pas un danger de voir certaines fonctionnalités réservées à ces Universal Windows Apps, ce qui serait normal finalement parce que à terme le Win32, l'ancien système, est voué à disparaître sur le long terme, mais si Microsoft garde la main mise sur le Universal Windows App et qu'il verrouille complètement l'histoire et qu'il n'autorise l'installation que par le Windows Store, alors ça fait beaucoup de si quand même, mais si tout ça se produit, il se pourrait que la stratégie mène sur le long terme à une sorte d'OPA sur le jeu vidéo et pourquoi pas sur d'autres éléments. Parce que imaginons une mise à jour de Windows qui dise à partir de maintenant, dans 3, 4, 5 ans, ils disent à partir de maintenant, les Universal Windows Apps sont suffisamment utilisés, suffisamment développés, les Win32 ne sont plus sécurisé suffisamment pour garantir la sécurité des systèmes Windows, on va dire que nos systèmes d'exploitation Windows ne peuvent plus installer d'applications Win32 et ils pourront uniquement installer les applications Universal Windows App par le Windows Store sur Windows 10. Basta, terminé. Et du coup, on a récupéré tous les développeurs et on a récupéré tous les développeurs qui, en plus, payent 30% à Microsoft, parce que sur le Windows Store, ça, il faut payer 30%. Donc, grosse question. Alors, c'est un petit peu le scénario de l'apocalypse, hein, quand même, qui nous décrit Tim Sweeney. Mais est-ce que ça vous fait peur? Est-ce qu'il exagère? Est-ce que c'est, qu'est-ce que vous en pensez de toute cette histoire?
Moi, je sais que, en fait, moi, ça m'a fait un peu la même impression quand Steam est arrivé. Parce que quelque part, on peut dire aussi que Steam a en tout cas tenté de verrouiller aussi le jeu vidéo à une époque. Enfin, moi, je me souviens, il n'y avait pas grand-chose qui existait en dehors de Steam.
Ils sont arrivés tellement tôt que forcément, il y avait...
Ouais, plus... ils ont... mais bon, on a vu tout de suite derrière qu'Origin a ouvert son propre truc.
Ça enfin, a pris que... un moment. Hein,
mais... Ça a pris un moment, mais que... Et là, on voit qu'aujourd'hui, Steam a plus de mal à avoir certains gros jeux, etc.
Ouais, chaque gros éditeur veut son propre store, bien sûr.
Veut son propre store. Donc, je pense que j'ai envie de dire la tentation est légitime de pour Windows pour offrir peut-être plus de stabilité, une expérience cohérente à ses utilisateurs, de peut-être pas de verrouiller le système, mais voilà, d'offrir une expérience homogène. Mais après, ça va être des histoires de sous, quoi, derrière.
Ben, je suis pas sûr parce que. Il y a un truc que disait Jeff. Tu nous interromps quand tu veux. Hein. Tu nous dis si tu veux intervenir. Tu nous entends, Jeff?
Oula.
Oui, c'est très très mauvaise qualité là. Je pense que t'as effectivement un souci de routeur. Je raccroche et je te rappelle tout de suite, Jeff. Mais moi, ce que je disais, c'est que effectivement, le truc, c'est que. Il y a un problème beaucoup plus vaste que le problème de les histoires de sous. Attendez, j'arrive plus à récupérer Jeff. Du coup, qu'est-ce qui se passe ?
Là, il avait l'air d'avoir une très mauvaise connexion.
Ouais, ça avait l'air un petit peu compliqué. Hop. Add to call. Donc, ce que je disais, c'est que c'est plus qu'une histoire de sous parce que finalement, ce que disait Tim Sweeney, je trouve qu'il avait tout à fait raison. La différence entre un système comme le système d'iOS ou même de macOS où Apple a son propre store et n'autorise pas l'installation d'applications en dehors de son store, la différence, c'est que Microsoft ne possède pas le marché des PC. Le marché des PC est un système ouvert, un système libre, et Microsoft a un monopole de facto sur les OS des PC, mais c'est une partie de l'écosystème, et le gros problème, c'est qu'il ne devrait pas être autorisé à profiter de ce monopole, c'est tout le problème des monopoles, hein, profiter de ce monopole sur l'OS pour pousser un monopole sur une autre partie de l'écosystème, comme le gaming, les applications. On avait eu le problème avec le navigateur Internet, on avait eu le problème avec le lecteur de médias, il y a quelques années, tous ces problèmes se sont posés. Et la différence avec Steam, c'est que Steam est une application sur Windows, personne n'empêche quelqu'un d'autre de développer son propre store sur Windows. Et d'ailleurs, je pense que Microsoft a été très sensible à la chose parce que tout de suite, ils sont venus répondre et dire que l'écosystème, enfin le système des Universal Windows App était ouvert et que n'importe qui pouvait l'implémenter à terme. Alors là encore, c'est très très vague, mais ce qu'ils disent, c'est que ne vous inquiétez pas, ça sera ouvert. Donc, vous pourrez installer des Universal Windows Apps par Steam, par Origin, par Battle.net, et on ne va pas fermer le système. Donc, finalement, si c'est vrai, bah toute la préoccupation, toute la polémique disparaît d'elle-même. Mais il reste cette interrogation, et même Tim Sweeney le dit, c'est pas pour tout de suite, mais c'est pour dans 5, 6, 7 ans. Il veut poser la question tout de suite pour qu'on fasse attention à ce problème et qu'on se laisse pas endormir par Microsoft, quoi. Donc, bon, voilà.
On a retrouvé Jeff?
Oui, je crois qu'il est revenu. Non? Ouh là là, je sais pas ce qui se passe dans la Silicon Valley, mais la connexion est pas bonne, là.
Ouais, c'est normalement, je suis connecté en wired, en directement sur la prise Ethernet, et là, je sais pas pourquoi ça marche pas, j'ai l'impression que notre routeur américain a marché, donc,
ouais, On t'entend très très mal, Jeff, du coup.
Il y a un orage solaire au-dessus de la Silicon Valley, là.
Ouais, bon, écoute, je sais pas ce qui se passe, si le Wi-Fi visiblement ne fonctionne pas très bien, mais on va continuer à avancer et puis on verra si tu réussis à corriger le souci. Autre petite news, il y a un Yahoo qui a ouvert un site d'e-sport. On parle de jeux vidéo, donc je voulais le mentionner. Le site d'e-sport de Yahoo, et il est super bien fait. C'est marrant parce que Yahoo, c'est quand même la quintessence du grand public. Ils ont quand même énormément de contenu. On se moque souvent de Yahoo en disant ils sont un petit peu has-been, machin. D'ailleurs, la vente semble se confirmer, mais ils ont énormément de contenu et ils sont très très grand public. Et là, ils ont ouvert un site e-sport qui est super bien fait, en anglais bien sûr. Et c'est pas les premiers. Il y a pas une histoire comme quoi TF1 faisait un truc d'e-sport aussi. De plus en plus de gens s'intéressent à l'e-sport et c'est une vraie légitimisation.
J'ai lu quelques articles effectivement. De toute façon, c'est pas la peine d'être né de la cuisse de Jupiter pour le voir. Il y a toute une nouvelle génération. Enfin. Moi, j'ai jamais regardé le foot, mais on va dire qu'on était des exceptions générationnelles. Mais les gens plus jeunes que nous, Patrick, je pense que quand ils vont vieillir, c'est pas des matchs de foot ou des matchs de rugby qu'ils ont envie de voir.
Les grands rassemblements.
Ça va être l'e-sport. Et là où Antoine de Caunes s'était bien implanté quand il avait parlé de l'e-sport, ça restera légendaire. Quoi, il y a des gens qui payent pour regarder d'autres gens jouer. Oui, et c'est passionnant. Sur certains jeux, c'est passionnant. Moi, je sais que je regarde des trucs de Heroes of the Storm et t'as la même excitation qu'un match de sport quelque part, tout en ayant un côté plus fun, je trouve. Ouais. Et donc voilà, l'avenir de l'e-sport, il est tout tracé.
Tout le monde est en train d'investir dedans en plus.
Donc. Et oui, il va y avoir des transferts publicitaires énormes. Moi, je serais vraiment pas surpris que d'ici une dizaine d'années, on ait des joueurs vraiment cotés avec des histoires de prostituées. qu'on retrouve tout le truc du star system du sport dans le e-sport, et ça commence déjà, les salaires ils
ça
sont
a déjà
encore,
commencé
mais,
ça a déjà
mais il y a des gros chèques déjà et et je pense
il y a
que
des transferts, il y a des dramas entre telle et telle équipe
exactement. Donc je pense que Yahoo fait bien de s'y mettre. Est-ce qu'après ils ont une légitimité?
Écoute, de ce que je vois, le résultat est étonnamment bon.
C'est très clair par rapport à d'autres, même je trouve pas.
Et puis ils sont authentiques.
C'est un peu Twitch, c'est bien, mais il faut être un peu de la génération compliquée pour comprendre. Enfin, je m'y perds un peu dans Twitch, moi, parfois.
Ouais, t'es pas le seul. Jeff, toi, t'es e-sports fan ou on va voir si la qualité du son est revenue?
Je sais pas si la qualité est revenue, parce qu'en fait, je suis fan.
Non, écoute, je suis désolé, c'est à peine audible, en fait, ton son, donc. Je suis confus.
Écoute, je vais vous dire au revoir parce que là, je sais pas ce qui se passe. J'ai rebooté mon routeur et ça ne marche pas. Donc, pardon. C'était un plaisir de vous retrouver et puis, j'espère que ça fonctionnera.
Ok. Bon, merci d'avoir été là. En tout cas, Jeff,
merci,
on a eu l'essentiel. Merci et à très vite. Ciao.
Ciao.
Écoutez, oui, l'e-sport, c'est quand même cool. Et si vous n'y êtes pas, vous n'êtes pas encore. Ce que je voudrais dire, en fait, la raison pour laquelle j'en parle avec Yahoo, c'est pas tellement pour parler d'e-sport, parce que il avance tout seul, l'e-sport, de toute façon. C'est aussi et surtout pour dire que c'est une tendance importante dans l'évolution d'une industrie voisine de celle de la tech, et que comme c'est des tendances qu'on aime bien évoquer dans le rendez-vous tech pour vous donner un petit peu les outils pour savoir ce qui va se passer, celle-là, elle est inévitable, elle a déjà commencé, mais 2016 est en train de se confirmer comme étant la légitimisation de l'e-sport, quoi.
Juste pour reboucler, parce qu'on aime bien faire des boucles dans le rendez-vous tech, finalement, l'avènement du live streaming et du e-sport, tout se tient. Ce qui manquait à Internet, c'était le côté vivre un événement ensemble, instantané au moment où il se passe. La magie du direct, comme on disait à la télé autrefois. Et je comprends pas que certaines personnes aient du mal à comprendre l'e-sport et qu'on regarde des gens jouer à des jeux vidéo, mais c'est cette excitation là de vivre un match, quoi. C'est exactement comme un match, le sport en moins, c'est exactement comme un match, la même effervescence qu'autour d'un match de tennis, ouais, de foot ou de quoi que ce soit, quoi. Donc ça a toujours rassemblé les êtres humains de vivre des choses ensemble.
C'est sûr, il y a vraiment de ça, et puis on peut le vivre ensemble, par Twitter, Facebook, ou même avec des amis qui sont là, mais pas seulement. Mmh. Et puis, tu dis le sport en moins, c'est vrai qu'il n'y a pas la même intensité physique, il y a certainement un effort physique qui existe,
oui, quand même.
Mais il y a une performance. Je ne sais pas si on peut dire, c'est le grand débat, mais à la limite on s'en fout, mais je ne sais pas si on peut dire que c'est une performance sportive, mais il y a une performance, c'est indéniable. Il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres.
En termes de concentration et de préparation, oui.
Non mais plus, je veux dire, il y a des gens qui font des choses qui sont physiquement incroyables et pas à la portée des gens normaux, quoi. Donc.
Mais tu vois, je regardais une compétition de robots. C'est marrant, t'as la même excitation aussi, et pourtant c'est des robots. Comme quoi, enfin, il y a plein de composants dans un truc. Bon, alors en fait, la réflexion que je me faisais, c'est qu'en regardant des robots faire un match de foot, en fait, c'est les équipes qui ont construit ce robot que tu soutiens, en fait, ces robots. Donc, il faut quand même toujours une composante humaine. Ouais, mais c'est vraiment marrant ces phénomènes. Et moi, je me surprends à regarder avec passion des matchs de Heroes of the Storm, à apprendre des techniques et tout ça, essayer de les reproduire lamentablement. Ensuite sur mon ordinateur, quoi.
Bon, bah écoute, on va continuer à avancer. Une petite pause pour quand même remercier les patriotes qui soutiennent l'émission, qui sont derrière nous pour contribuer financièrement, rendez-vous compte, à l'émission et nous aider à la produire. Je remercie donc du fond de mon petit cœur Infirana, Fils à Greg, Jérémy Viailly, Yoyok 123, Mathieu Lebrun, David Gattard, Redet Eric, Pierre Sabrier, Benoît et Jazzy John. Merci à vous et à tous ceux qui sont sur le Patreon du Rendez-vous Tech. On est toujours en train de progresser vers le prochain palier qui nous permettra de payer certains co-animateurs, comme par exemple le sieur Jérôme Kainborg.
Quoi, je travaille gratuitement là en ce moment. C'est quoi ce scandale on bouge les fesses là, les patriotes.
il y a eu le paiement du mois qui vient d'arriver et il y a certaines cartes bleues qui ont été bloquées. Il y a des paiements qui sont pas passés. Donc peut-être essayer de vérifier où vous en êtes. Moi je suis en train de vérifier avec eux aussi de mon côté. Mais si vous êtes pas valide dans les paiements depuis quelques temps, peut-être revalider votre moyen de paiement, ça serait sympa. On tourne autour des $2,300, donc on n'est pas loin, mais ça continue à avancer. Quoi qu'il en soit, si vous appréciez l'émission, réfléchissez peut-être à y contribuer, ça serait une bonne opération, je pense, pour tout le monde. Bon, surtout pour nous. Mais quand même, je pense que la satisfaction du patriote.
C'est quoi le dernier pseudo là, Jazzy Jones? Je trouvais que ça claquait trop bien. Là.
Jazzy John, ouais, c'est pas mal.
Jazzy John, ça le fait bien.
C'est vrai, ouais. Moi, je vois bien Jazzy Jérôme.
Jazzy JJ.
Bon, on continue avec nos news. Facebook a mis en place leurs diverses réactions. Vous savez, on avait le pouce like Facebook, et maintenant il y a love, haha. Wow, sad, angry. Donc en français, amour. Wow, triste et je suis énervé. Voilà.
En plus, pas du tout crédible quand t'es
énervé. Non, pas du tout. Je le trouve pas mal, franchement. Je sais que souvent Facebook, quand ils changent des trucs, il y a des levées de boucliers incroyables. Là, j'ai vu que des réactions positives. Ils sont très bien.
C'est très intelligent. C'est très intelligent pour, à mon avis, pour deux choses. D'abord, ils ont limité le nombre de réactions. On n'est quand même pas aussi compliqué qu'un clavier d'émoji. Donc, tout le monde peut l'utiliser. Les gens l'ont vite compris. Hein. Moi, je le vois dans mes posts. Maintenant, j'ai des réactions très nuancées. ils ont eu l'intelligence aussi de ne pas mettre un « je déteste » ou « je n'aime pas » qui aurait créé une ambiance glauque. Ouais. On sent qu'ils ont vraiment bien réfléchi leur truc. Et alors, il faut toujours se mettre de l'autre côté de la barrière parce que Facebook ne fait rien pour juste nous faire plaisir. Il faut pas rêver. C'est très intéressant d'un point de vue marketing. Et les informations que ça va permettre de donner aux investisseurs marketing, d'avoir des réactions comme ça sur différents produits, différentes annonces publicitaires, ouais. Et ce genre de choses, va permettre, tu sais, c'est un peu comme on les voit parfois dans les films, les fameux trucs de test, là, où on rassemble les gens dans une pièce, on leur fait goûter un yaourt et on leur demande un petit peu ce qu'ils en pensent. Et d'avoir comme ça un petit panel de réactions diverses sur des produits, c'est des informations qui valent très cher en termes de marketing. À la limite, on s'en fout qui a réagi comment, mais de voir qu'il y a eu 30% de gens qui ont eu quelque chose de mitigé sur l'annonce de ton nouveau produit, c'est très intéressant d'un point de vue marketing. Donc encore,
alors
un très
comment
bon
tu
produit.
Fais mitiger comment tu fais mitiger entre love, haha, wow, sad et angry?
Ouais, tu vas plutôt faire un sad ou enfin tu. Pour moi, il y a déjà
ouais, ou angry, effectivement, il y a des réactions positives
en fait,
et
pour
des
moi,
réactions
a,
négatives
ouais,
quoi.
Il y a déjà une différence entre thumbs up et un cœur.
Et ouais, tout
de rien, il y a une nuance entre les deux, et cette nuance, on va pouvoir la donner. Et je pense qu'un produit qui a des cœurs, il y a vraiment une implication genre, ouais, je suis fan de la marque, thumbs up, ça va être, ouais, c'est pas mal, quoi. Donc ouais, déjà, ça donne, tu vois, une nuance marketing intéressante.
T'as tout à fait raison. Facebook a aussi annoncé que leur revenu va plus être passé par l'Irlande. Et donc, ils vont payer énormément d'argent en plus. On parle de l'Angleterre uniquement, hein, là.
Ouais.
Et là, en Angleterre, on aurait pu se dire, bah, ils se sont dit, ouais, super, on va avoir plus d'argent. Et bah, en fait, les réactions, c'est tout à fait normal. Ça a été, attendez une seconde. Donc, en fait, vous passez bien vos revenus par l'Irlande avant. C'est le truc qu'on vous demandait depuis des années et vous disiez non non ici on a que vous voyez quelques représentants ventes genre commerciaux mais bon c'est tout tous les services eux-mêmes ils se passent en Irlande. Là ils ont dit bah on va plus passer par l'Irlande donc on va venir mais du coup ça fait des années que vous faites ça et c'est un petit peu la même question qui se pose en France. On sait que Google s'est vu réclamer selon certaines sources va se faire réclamer 1,6 milliard d'arriérés d'impôts puisque seulement 10% de leur activité réelle en France serait déclarée. C'est là encore le problème de savoir qu'est-ce qui est effectivement fait en France et qu'est-ce qui est fait ailleurs. Parce que la question n'est pas que ils n'ont pas le droit d'avoir des bureaux dans d'autres pays de l'Union européenne et de payer les impôts là-bas. La question est de savoir le volume de travail, lequel est-il réellement dans quel pays. Et bien sûr, quand tout est décentralisé, quand tout marche sur les réseaux, c'est très difficile d'estimer et de savoir exactement tout ça. Mais visiblement, les choses sont en train d'évoluer.
Ouais.
Et non, t'as pas l'air convaincu.
Moi, ce qui m'agace toujours un petit peu, c'est que comme on présente les choses, on a un peu l'impression que, tu vois, ils ont détourné de l'argent des impôts. Moi, ce que je dis souvent quand même, c'est que la faute de ces non-déclarations de revenus vient, à mon avis, majoritairement du système européen et des décisions fiscales et politiques, la compétition fiscale entre nos pays. Ce que je n'arrive pas à comprendre dans le fond du débat, c'est pourquoi les entreprises payent aussi peu d'impôts en Irlande et plus en France.
C'est tout le problème, oui.
C'est le fond du problème. Oui, mais on a vite fait de dire ces méchantes sociétés. Alors, attention, c'est pas des anges. Eux, ils voient une faille, ils mettent leur pied de biche dedans et hop,
bien
ils plantent les pieds. Mais c'est le rôle d'une entreprise d'essayer de payer le moins d'impôts possible. Enfin, je veux pas dire que c'est son rôle, mais
on est d'accord. Le problème de la fiscalité en Europe, c'est le problème de l'Irlande et d'autres pays où la politique fiscale est moins importante que dans certains autres. Et cette compétition, on l'a voulu en Europe. Mais effectivement, ensuite, le gros problème en fait qui se pose pour ces sociétés-là, c'est de savoir si effectivement ils ont du travail qui passe par la France ou pas, ou s'ils ont juste une sorte de bureau de représentation en France et que tout le travail se passe effectivement en Irlande ou ailleurs. Et bah, ça, c'est une question qui est...
C'est une question, mais en même temps, après, il y a peut-être des zones de flou, mais moi, ce que j'ai compris sur la fiscalité, c'est qu'à partir du moment où tu génères un revenu sur un territoire, même si tu es un site internet, le contrat que tu passes avec l'annonceur qui t'achète de la pub, il est fait en France.
Oui. Donc, mais oui, mais ensuite, la pub elle-même, qui est générée par les serveurs de Google qui sont en Irlande et qui, ou dont les ingénieurs sont en Irlande. Tu vois, c'est ça la question.
Mais moi, ce que j'avais compris sur la fiscalité, c'est que c'était la transaction qui primait.
Non, mais la transaction, c'est-à-dire que tu as ton, tu peux payer une transaction. Je suis pas un spécialiste, hein, donc je vais peut-être dire des bêtises, mais la manière dont je le comprends, c'est que tu payes ta transaction en France pour un service qui est rendu en Irlande.
En Irlande, donc, ouais, non, non.
Tu
mais
vois,
c'est
Google déclare son commercial en France, mais ses ingénieurs et ses serveurs et ses tout ça, ils sont en Irlande. Je crois que c'est de ce niveau que le problème se pose. Et c'est pour ça que c'est compliqué.
Ouais, mais, non, mais c'est bon. C'est pas.
Mais il n'empêche qu'ensuite tous les clients seront en France, quoi. Mais bon,
ouais.
Bref.
Bon.
Ensuite, on a toujours.
On va
du
dire
côté
des problèmes de riches.
Ouais, un petit peu, ouais, pour le moins. YouTube est en train de créer une équipe pour minimiser les problèmes de copyright sur YouTube. Vous savez que c'est un gros problème pour certains créateurs de contenu qui sont... Bon, on va pas rentrer dans tous les détails, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais il y a les gens qui possèdent le copyright sur un contenu vidéo ont un petit peu, en schématisant, pouvoir de vie et de mort sur une vidéo qui utilise ce contenu, même, et c'est là qu'on a un gros problème, même si l'utilisation est, on va dire, légale, en ce sens que ça peut être un commentaire, une review, un truc comme ça. On n'a pas, en France, on n'a pas le même fair use qu'aux États-Unis, mais on a effectivement une sorte de droit à l'information journalistique qui est très difficile à faire respecter puisque les ayants droit ont le pouvoir total de contrôler une vidéo dans laquelle apparaît une petite partie, même si ça représente qu'une petite partie de la vidéo, les ayants droit peuvent contrôler la vidéo en question ou apparaît.
Et ils contrôlent l'intégralité de ta vidéo.
Voilà.
Et
donc ça pose énormément de problèmes.
Et l'intégralité des revenus publicitaires sur cette vidéo.
C'est ça.
C'est
et
ça
donc,
gros problème.
Des gros créateurs ont commencé à taper du poing sur la table. Et donc, enfin, c'est marrant, on voit la puissance.
Les petits aussi, on a tapé, mais on nous a moins entendu.
C'est
nous,
ça exactement.
Nous, ça fait schponk, alors que quand t'as un gros YouTuber, ça fait boum.
Mais c'est marrant, tu sais, c'est l'une des raisons pour lesquelles je m'emmerde pas trop à faire des vidéos YouTube non plus. C'est aussi, bon, il y a plein de raisons, mais ça, c'est une des raisons. C'est que je sais que c'est infernal, parce que si tu veux utiliser une vidéo de tel ou tel truc, même pour en parler, pour faire une review, t'as toujours le risque d'avoir quelqu'un qui vient te la supprimer, te mettre un copyright strike, après trois, ta chaîne est bannie, etc., etc.
Ben, je vais donner un exemple au public pour qu'ils se rendent compte à quel point les moteurs sont performants. Je fais donc mon émission Techscope sur Periscope, mais je l'enregistre ensuite sur YouTube. Et généralement, quand je veux montrer quelque chose aux gens qui me regardent sur Periscope, je leur montre avec mon iPad, tu vois, une petite vidéo. Et ben, je me suis pris un strike sur un de mes Techscope parce que je montre un petit extrait d'une des vidéos des robots de Boston Dynamics et je me suis pris un strike. Un strike, ça veut dire que la pub que je mets dans Techscope, l'ensemble de l'argent va à la société qui détient les droits de cette vidéo. Mon heure entière de vidéo, la pub qui est dessus, ben, leur va chez eux.
Ouais, bon. C'est pas tout à fait un strike. Ça, c'est juste qu'ils se sont attribués les. Un strike, c'est carrément quand tu contestes et qu'ils te disent, bah non, strike, c'est à nous, paf, c'est terminé. Et bon, bref, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. Mais tout ça pour dire que l'équilibre du pouvoir est en train de se mouvoir et que les gros YouTubers ramènent suffisamment d'argent pour que YouTube veuille en ait plus peur que des ayants droit finalement. Donc ils vont essayer de régler le problème et c'est une excellente chose parce que le fait qu'on n'ait pas de droit à l'information sur certains contenus était un petit peu ridicule quoi.
Je pense pas qu'ils aient plus peur, mais il y a un équilibre à restaurer. YouTube, faut pas oublier que quand Google l'a racheté, c'était un peu le monde de la piraterie. On avait des films entiers sur YouTube, etc. Et donc, ils ont vraiment construit des moteurs pour rassurer les ayants droit. Maintenant, il faut rétablir l'équilibre. Mais c'est pas donner plus de pouvoir aux créateurs, hein. C'est plus rétablir un équilibre entre les ayants droit et les créateurs de contenu.
Oui, bah c'est-à-dire que les créateurs de contenu n'ont aucun pouvoir à ce niveau-là aujourd'hui. Donc leur rétablir l'équilibre, c'est leur en donner un peu plus.
Ouais.
Mais c'est surtout, en fait, plus qu'une question de pouvoir, c'est surtout le fait qu'on ne puisse pas faire respecter ce droit à l'information, ce fair use qui est ridicule, quoi. Oui, ils ont des procédures écrites où tu vas dire non, moi en fait j'utilise ça pour en parler parce que je fais une review et j'utilise seulement une petite partie et il faut que les gens l'analysent et regardent et voient si c'est vrai et machin, enfin... Disons que oui, l'équilibre
et,
est vraiment pas
et il y avait un truc très putassier, c'est que si tu cliquais sur le fait que t'as bien compris que ta vidéo, il y avait un ayant droit, en fait, si tu lisais pas dans les lignes, en fait, tu ne pouvais pas revenir en arrière, c'est-à-dire tu pouvais pas contester derrière. Si tu faisais une mauvaise manip, et moi je l'ai faite une fois, et même derrière mon MCN qui a essayé de ramener ma vidéo, n'a pas pu parce que j'avais cliqué sur un truc.
MCN, c'est Multi-Channel Network, c'est en les agences qui réunissent plusieurs chaînes. Quoi.
Oui, c'est des régies, en fait, et qui s'occupent aussi de tes problèmes comme ça, en fait.
De tes problèmes légaux, qui font aussi un peu régie publicitaire, etc.
Tout à fait.
Apple pourrait avoir, enfin, a priori, maintenant, c'est quasiment sûr, leur présentation, une petite présentation, le 21 mars, où ils présenteraient le nouvel iPhone 4 pouces, qui est une sorte de il s'appellerait le iPhone SE, donc c'est bon, un nouveau petit iPhone entrée de gamme entre guillemets pour un iPhone, le nouvel iPad qui serait nominé iPad Pro, mais en version 9 pouces, donc ça serait le successeur de l'iPad Air 2 qui serait dans la catégorie iPad Pro et qui pourrait utiliser le stylet d'Apple. Et on a des rumeurs sur l'iPhone 7 qui serait un petit peu plus fin, encore une fois, qui aurait des écouteurs stéréo et puis qui aurait plus l'appareil photo. Qu'est-ce que j'ai dit ? Des écouteurs, oui,
des écouteurs, c'est des haut-parleurs.
Des haut-parleurs stéréo, ouais. Effectivement, et qui n'auraient plus l'appareil photo protubérant qui sort un petit peu. Le lancement d'Apple Pay qui semblerait se confirmer avant la fin de l'année. Et enfin, toujours avant la fin de l'année, Siri qui serait disponible sur Mac. Ça serait l'une des grosses fonctionnalités de la prochaine version de OS 10, OS 10, 10.12.
On dit aussi dans les rumeurs qu'ils vont présenter un iPhone qui va s'appeler le FBI iPhone.
Ah, pas mal. Je parlerai dans un tout petit peu à la fin de l'histoire FBI, évidemment. Il y a eu, vous savez, le Mobile World Congress il y a trois petites semaines. 30 000 des 100 000 personnes qui étaient au Mobile World Congress ont utilisé Airbnb. Rendez-vous compte, 30% des gens qui sont venus en Espagne pour le Mobile World Congress ont utilisé Airbnb. C'est invraisemblable. Moi, ça me paraît... Enfin, c'est un chiffre incroyable, quoi. 30% sur un truc comme ça, c'est dingue. Une autre démo qui était assez intéressante... Enfin, une autre truc qui était assez intéressant par rapport au Mobile World Congress... Il y a des chercheurs en sécurité informatique qui se sont posés au Mobile World Congress et qui ont créé une borne Wi-Fi factice et qui ont connecté des données sur les gens qui passaient finalement. Et là, vous vous dites, ça on connaît, il faut juste pas se connecter à n'importe quel Wi-Fi. Mais là où c'était hyper intéressant, c'est qu'ils ont créé une borne Wi-Fi avec un nom, une SSID, un nom qui était très commun. Par exemple, Airport Free Wi-Fi. Vous êtes déjà, vous, forcément connecté à un Airport Free Wi-Fi dans votre vie. J'en suis sûr, la plupart d'entre vous l'ont fait. Et bien sûr, nos téléphones sont programmés pour se reconnecter au réseau qu'ils ont déjà rencontré. Et en l'occurrence, une bonne partie se sont connectés au faux Airport Free Wi-Fi... qu'ils ont mis en place et parce que les téléphones s'étaient déjà connectés à un autre Airport Free Wi-Fi avant et du coup ils ont pu espionner tout le trafic qui passait alors que les utilisateurs ne se sont pas activement connectés à la borne. C'est ça qui était particulièrement intéressant là. Et bien sûr, c'est pour ça qu'il est tellement important, en dehors de la question de Apple et du chiffrement des machines elles-mêmes, mais d'utiliser des communications chiffrées quand vous connectez Internet, quand vous utilisez des apps de banque, de Twitter, etc. C'est pour ça qu'on a vu il y a 2 ans à peu près toutes les communications en ligne par le net ont commencé à devenir chiffrés et Google a beaucoup poussé là-dessus pour ça, etc., etc. C'était une démonstration assez frappante, j'ai trouvé cette histoire de Airport Free Wi-Fi, je vais y arriver.
C'était organisé par... j'ai vu dans l'article, c'est pas Symantec, non c'est,
Je sais plus.
je sais plus non plus.
C'est Avast.
C'est Avast et qui vendent un VPN justement et un système de... Disons que c'était une belle démo et en même temps ça servait de marketing.
Bien sûr, évidemment.
Et évidemment.
Tu as tout à fait raison de le signaler. Il y a le monde n'est pas rose dans le monde des bitcoins. Il semblerait, on entend parler, j'en parle pas toujours dans l'émission, mais on entend des rumeurs de dysfonctionnement sévère dans le monde des bitcoins, et en particulier chez l'équipe au cœur du développement de Bitcoin. Le président de Coinbase, Brian Armstrong, a écrit un article très intéressant, je crois que c'était sur Medium, sur les raisons qui font que ça ne se passe pas bien chez Bitcoin, et qu'en fait, il risque d'y avoir des problèmes très sérieux chez Bitcoin d'ici quelques semaines ou quelques mois, parce que, bon, il y a plein de raisons techniques, mais en gros, l'équipe qui est au cœur est une bande d'idéalistes hyper intelligents, mais qui refuse d'implémenter des solutions pragmatiques pour résoudre les problèmes qui se posent, et qui préfèrent ne rien faire que d'implémenter des situations qui ne sont pas parfaites. Ils cherchent des solutions parfaites, et ils préfèrent ne rien faire s'ils n'ont pas de solution, alors qu'ils savent qu'il y a des problèmes très sérieux avec le système de Bitcoin. On a déjà des délais de plus en plus longs dans l'acceptation des transactions. Il y a plein de gros problèmes qui se passent parce que, en fait, le réseau de Bitcoin est en train d'arriver à sa capacité maximum, et il faut faire des changements fondamentaux à l'implémentation du réseau. Donc, on peut espérer que ça va bien se passer, mais j'ai trouvé l'article très intéressant, et cette idée que le cœur, les quelques 3, 4, 5 personnes qui étaient au cœur du développement de Bitcoin, en fait, finalement, ce qu'il dit en substance, c'est qu'ils sont trop intelligents pour gérer le truc correctement et pour accepter les compromis. J'ai trouvé ça intéressant comme...
Ouais, et puis il y a des histoires justement d'un nouveau Bitcoin, mais qui n'est pas accepté par une partie. Enfin, c'est complexe. Et effectivement, tu sens que ça a été fait par des gens qui réfléchissent beaucoup, mais qui ne savent pas forcément faire des choses simples.
Ouais, exactement, ouais. Exactement. Ouais. Et entre parenthèses, Bitcoin et Oh là là, le nom le blockchain, voilà. Ouais, blockchain. Il faut pas confondre Bitcoin et blockchain. Blockchain, c'est un système de transaction, de vérification de transactions sécurisées qui est en train d'être exploré par plein d'applications dans le monde. Le Bitcoin, c'est cette implémentation spécifique pour la crypto-monnaie Bitcoin. Le blockchain est un système qui est en train d'être, il y a plein de versions différentes qui sont en train d'être implémentées pour plein de trucs différents,
oui,
notamment
régler des transactions
beaucoup.
Complètement différentes du Bitcoin, quoi.
C'est ça. Ouais. Visiblement, les Français sont maintenant mobile first. Ça y est, il y a plus d'utilisateurs mobiles que d'utilisateurs sur ordinateur, quoi.
Ça, c'est grâce au Bebop, hein, mon bon monsieur.
Bon, peut-être que le Bebop, mine de rien, a joué un petit peu dans la familiarisation. Non, mais les gens se sont familiarisés avec l'idée. Donc, quand les smartphones sont arrivés,
personne n'en achetait. Moi, je m'en souviens du Bebop. Ils ont construit une fortune leur réseau d'antennes là, et personne ne l'achetait.
Moi, j'avais un pote qui en avait un.
C'était moi, j'en avais un.
Ouais, mais c'était bien pourri.
C'est quand même le truc. Il fallait te localiser pour qu'on puisse t'appeler. Tu vois.
Bah
le...
oui. Ah, c'était non, mais ça l'idée. Ouais. Mais oui, mais l'idée, c'était que tu pouvais appeler toi d'à peu près n'importe où. Toi-même, tu pouvais appeler, ce qui était déjà
oui,
pas mal.
Oui, te faire appeler. Alors, ils avaient tourné ça marketingement en disant, c'est comme une cabine téléphonique dans votre poche.
C'est ça, ouais.
Donc, faut vous localiser quand même pour qu'on puisse vous appeler.
Ouais. Bon, c'était pas... Mais bon, en tout cas, aujourd'hui, ça y est, la transition est faite. En fait, on se dit, ça, c'est moins de 10 ans, finalement, depuis l'arrivée des, entre guillemets, vrais smartphones. Et ça y est, c'est déjà devenu la majorité de l'utilisation d'Internet, finalement.
Là, c'est les chiffres mobiles ou smartphones ?
Ah bah, c'est quand on parle de mobile, là en l'occurrence on parle de possesseurs de smartphones. Il y a 50, c'est Médiamétrie qui a fait l'étude, c'est l'année Internet 2015, il y a 50,7% de Français qui sont possesseurs de smartphones et qui se connectent chaque jour à l'aide de leur appareil mobile. Et 46,9% se connectent quotidiennement au web à l'aide d'un PC, selon cet article que nous rapporte iPhone.fr. iPhone sans E, hein, c'est le blog que je consulte souvent pour les news iPhone. Donc, c'est en 2013, entre parenthèses, il y avait 79% des connexions à Internet qui se faisaient via l'ordinateur. Donc, sur ces deux, allez, c'est décembre 2015, décembre 2013, en deux ans, on est passé de 80% par ordinateur de bureau et portable à moins de 50%. C'est dingue. En deux ans, ça représente plus que... Enfin, il y a eu 30% de chute, quoi. C'est incroyable. Enfin, moi, ça me choque toujours, ces infos.
Ouais, après, il y avait...
Enfin, ça me choque, je le sais, mais...
Choqué, non, mais après, je crois qu'on l'a bien vu, il y avait une aspiration réelle de l'humanus capitalus occidentalus à avoir un ordinateur dans sa poche, quoi.
C'est sûr.
Et que ça a été comme l'arrivée des téléphones mobiles. Moi, je me souviens que c'était incroyable le taux. Là aussi, l'abandon des lignes fixes, on y est déjà, quoi. La vitesse de propagation. Quand t'as une vitesse comme ça, c'est que ça répond à un besoin qui était là depuis longtemps et que tu assouvis très vite, quoi. Quand tu as des taux d'adoption comme ça.
C'est vrai, le truc le plus adopté avant ça, la télévision avait été hyper rapidement adoptée, et il y avait eu d'autres trucs, mais je sais plus.
La radio a été un des taux les plus forts, mais justement qui a été battu, je crois, par les téléphones portables.
Je crois que c'était la télévision qui avait été
battue. C'est la télé plus que la radio, ouais,
je crois, je crois. Bon. Si vous avez les infos, venez nous le dire at notre Patrick.
Là où j'ai un doute, c'est que les premières télés coûtaient extrêmement cher, alors que les radios rapidement sont devenues accessibles.
Écoute, toi, t'es un petit peu plus âgé que moi, donc t'as connu cette époque, mais moi, j'ai pas connu.
tu sais, j'ai connu Internet en noir et blanc, moi. Et c'était muet, Internet.
Ah bah oui, ça, j'ai connu aussi, oui.
On mettait de la musique de Charlie Chaplin.
sur le Reddit du Rendez-vous Tech, Léthargique Panda nous a présenté la vidéo du chien de Andy Rubin, vous savez, le fondateur de Android, contre le chien, enfin le spot de Boston Dynamics. Vous vous souvenez de ce chien robot un petit peu fou? Il y a une vidéo très mignonne et à la fois inquiétante du robot de Boston Dynamics, la sorte de chien cheval vache là, énorme, sans tête, qui est terrifiant. Et le petit chien de Andy Rubin qui est en train d'aboyer sur cette bestiole, c'est hyper intéressant de voir l'interaction entre cet animal artificiel et le vrai animal qui est le chien de Andy Rubin. Alors le chien robot est contrôlé par un humain. Mais
oui, en fait, il est pas autonome. Mais la vidéo, au-delà effectivement que c'est les chiens qui nous sauveront du Doomsday, là où elle est intéressante, c'est de voir les nouvelles articulations de ce robot, et notamment qu'il arrive à se relever alors qu'il est les quatre fers en l'air. C'est très impressionnant et très flippant, comme tous les robots de Boston Dynamics. Et justement, c'est la vidéo dont je parlais tout à l'heure que je me suis fait straquer.
Ah oui.
Donc tu fais bien de pas la montrer, Patrick.
Bah oui, nous on est sur Internet sans les images encore. Donc,
voilà,
c'est pour ça. Not Mika nous a envoyé un lien sur la Google Car qui a causé un accident. Pour la première fois, ça y est, pour de vrai, un accident causé par la voiture autonome de Google. On se souvient qu'elle en avait causé aucun de vrai accident elle-même. Eh bien là, oui, elle a causé un accident. En fait, elle avançait et il y avait un bus qui avançait lui aussi, et le bus avançait à 24 km/h et la Google Car roulait à 3 km/h, et pour une raison qu'on ne comprend pas, normalement la Google Car aurait dû s'arrêter pour laisser le bus passer, et en fait elle l'a pas, elle s'est pas arrêtée. Il y avait eu un problème avec il y avait des sacs de sable en fait sur la voie, et donc il y a eu une erreur de jugement. Enfin bref, c'est un petit peu on n'a pas bien compris. Bon, nous on n'est pas les ingénieurs de Google, eux j'espère qu'ils savent, mais à la limite les raisons du truc importent peu. Il y a deux choses à retenir. D'une part, elle roulait à 3 km/h, donc c'était pas un accident le plus spectaculaire de la Terre, heureusement, et puis l'autre chose, c'est que c'est le premier, ça y est, il y a eu un accident avec la Google Car.
Peut-être qu'on s'apercevra qu'il y a un ingénieur français qui a implémenté des lignes de code spécifiquement françaises. Le « pousse-toi de là, je passe
». À mon avis, c'est pas que français, ces lignes de code-là.
Oui, oui, on va dire européen, pour être diplomatique.
Ouais, tu sais, moi, j'ai vécu dans des pays où c'était vraiment pas...
Ah oui, pire que la France, ouais, hein. C'est sûr. Bien pire, bien pire.
Gobotom nous a envoyé le lien de... Vous connaissez 1Password, bien sûr, c'est un manager de mots de passe. Je me souviens qu'il y a quelques mois, il y a des gens qui avaient été outrés, enfin terrifiés par une sorte de leak qui avait eu lieu sur LastPass, qui est l'autre grand concurrent chez les amateurs de password manager. Et bien là, 1Password a un scandale de sécurité, entre guillemets, un scandale un petit peu similaire avec le mot de passe qui est envoyé en clair dans l'interface, alors c'est technique, hein, l'interface de loopback dans le navigateur, entre l'extension et le navigateur, en gros, quelqu'un pourrait le récupérer. C'est aussi une faille de sécurité, je suis sûr qu'ils l'ont déjà corrigé, mais c'est marrant de se dire que même les... Il faut vraiment comprendre qu'aucune solution de sécurité n'est inviolable. Et il y aura toujours des problèmes de ce type-là, même pour un logiciel dont le but ultime est de protéger vos mots de passe. Donc ça devrait être le truc le plus sûr de la Terre.
Le plus sûr de la Terre, ouais.
Et malgré ça, eh ben, ça arrive qu'il y ait des problèmes. Donc c'est important de savoir que... voilà, c'est jamais, on n'est jamais 100% en sécurité. Il faut choisir les trucs qui sont le moins, enfin, se protéger le mieux possible, mais il faut jamais se dire, c'est inviolable, quoi.
Mais tu sais, pour faire un petit parallèle, on m'a expliqué un truc sur les serrures physiques des portes. Tu sais, elles ont, t'as des serrures 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Ça veut pas dire que les 5 étoiles, personne n'arrive à les crocheter ou à les ouvrir. C'est simplement le temps que les gens vont mettre pour les ouvrir. Ouais. Donc, rien, y a pas de coffre-fort inviolable, il y a rien d'inviolable, effectivement.
Et ben, justement, concluons avec ce message de, Snoop Noggy Nog, toujours sur sur Reddit.
Ils sont bons les pseudos.
Ouais ouais, il y en a des bien. Qui a envoyé un lien. En fait, ça a rapport avec l'affaire FBI contre Apple. C'est un lien qui explique que en fait Apple aimerait bien que le FBI demande à la NSA. Ils l'ont pas dit comme ça, mais demandent à la NSA de craquer le téléphone parce qu'ils se doutent bien que la NSA a déjà des solutions pour craquer le téléphone dont on parle depuis des semaines. Mmh. Et ça nous amène à une discussion que je vais pas faire trop longue, mais que je vais quand même évoquer un tout petit peu, parce que il y a beaucoup de choses que j'ai entendu répéter à maintes et maintes reprises dans cette affaire, et il y a beaucoup, je vais pas dire de désinformation, mais de mésinformation. Il y a beaucoup de gens qui émettent des jugements sur cette affaire en ne sachant pas tous les éléments. Alors il y a trois choses que je voudrais dire. D'abord, de plus en plus d'experts sont en train de dire qu'il ne serait pas impossible au FBI de réussir à trouver le contenu du téléphone, à craquer le téléphone, sans avoir besoin qu'Apple ne leur conçoive un logiciel spécifiquement pour ça. C'est marrant parce que on y réfléchissait avec mon ami Tom Merritt avant de faire notre émission la semaine dernière, et on se disait, juste pour illustrer la chose, est-ce qu'il ne serait pas possible de faire une copie du téléphone, un dump des données du téléphone, et de faire les tentatives de déblocage sur cette copie? Et puis, une fois que la copie a été bloquée, ben on s'en fout, on fait une autre copie. Et même plus intelligent que ça, plutôt que de faire une copie, faisons 10, 15... 100 copies et essayons différents codes sur ces 100 copies. Ils vont tous se bloquer, on s'en fout. Alors, c'était une idée qu'on mentionnait comme ça. Il semblerait que ça soit possible à faire un truc comme ça. Bien sûr, ça demande d'énormes ressources.
Bah, surtout mais... que tu peux te dire qu'on peut le virtualiser, ça.
Bah, exactement.
Pas forcément faire des téléphones physiques.
Exactement, c'est exactement l'étape suivante. On se disait, ben, on peut tout à fait virtualiser la chose. Enfin, on se demandait, hein, on se dit a priori, est-ce qu'on pourrait pas virtualiser la chose? Et du coup, à ce moment, c'est plus 10 ou 20 ou 100 téléphones qu'on va faire tourner. Mais pourquoi pas 1000 en même temps? Et puis, les tests vont prendre une minute par, téléphone virtualisé. On peut en faire sur une journée, sur 24 heures, évidemment beaucoup. Alors, c'est l'une des solutions. Je vous disais, rien n'est inviolable. Et je crois qu'il y a une idée, on a peut-être contribué en fait à donner cette idée aux gens, qui est que il était possible d'avoir avec le chiffrement des trucs complètement inviolables. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Le truc que fait la protection informatique, c'est d'essayer de rendre aussi difficile que possible le hack. Mais si on a les ressources et les capacités d'un gouvernement derrière, a priori, on réussira au bout d'un moment à craquer, à trouver un moyen pour rentrer dans le téléphone. Il y a même des histoires qui sont diffusées en ce moment sur Internet avec une petite box à $200 achetable sur Amazon qui explique comment il peut effectivement craquer un téléphone sous iOS 7. Je ne sais pas si c'est valable, à la limite, c'est anecdotique, mais il y a certainement des moyens qu'aurait le FBI. Je veux pas être catégorique dans mon affirmation, mais on imagine, et visiblement les experts sont d'accord, et ce que le silence de la NSA laisserait penser, selon certaines personnes, que la NSA peut le faire et ils veulent pas aider le FBI parce qu'ils veulent pas qu'on sache qu'ils peuvent le faire. Mais beaucoup de gens disent, le FBI non seulement pourrait le faire, mais en plus il faut qu'il puisse commencer à avoir l'argent, le funding, le financement pour développer une cellule informatique qui soit capable de faire ce genre de choses. C'est important pour les enquêtes à venir. Et donc, c'est un élément hyper important de cette affaire. Il y a deux autres choses que je voulais dire. Beaucoup de gens pensent que c'est un cas isolé encore aujourd'hui. Ce téléphone-là, oui, est un cas isolé. Mais en fait, la question qu'on se pose ne se pose pas pour juste ce téléphone-là. Le FBI a déjà dit qu'ils avaient plusieurs téléphones qui suivraient immédiatement après la décision prise. Et il y a plein d'agences de protection qui ont commencé à dire, quand je dis agence de protection, je parle de la police ou d'autres agences aux États-Unis, qui ont commencé à dire, nous aussi, on a des téléphones qu'on voudrait craquer. Donc, ne pensons pas que c'est uniquement sur ce téléphone pour une affaire de terrorisme, uniquement. C'est vraiment une mécompréhension de la portée de ce cas. On ne parle pas que de ce téléphone, on parle d'énormément d'autres choses en plus, d'autres téléphones, mais de la sécurité informatique en général. Donc, si vous faites une opinion sur cette affaire, ne tombez pas dans le piège où on vous dit, ah, mais il demande juste pour ce téléphone parce que c'est un téléphone d'un terroriste qui pourrait contenir des informations hyper importantes, pour déjouer d'autres attaques terroristes à venir. C'est vraiment pas ça la vraie question. Et en plus, bon, bref. Je vais pas repartir dans tout le débat. L'autre chose que je voudrais redire encore une fois avec beaucoup de force, c'est qu'Apple n'est pas en train de prendre la justice dans ses propres mains. Il y a plusieurs personnes dont j'ai entendu les commentaires qui étaient outrés parce qu'ils se disaient « Ah mon Dieu, la loi dit qu'Apple doit faire ce truc et Apple dit « Non, Osef, rien à foutre, on le fait pas ». Qui est Apple pour estimer qu'ils peuvent contrevenir à la loi pour dire qu'ils ne sont pas sujets aux lois de leur pays ? Et ce sentiment, je le comprends. Mais là encore, c'est une mécompréhension de ce qui est en train de se passer. Apple n'est pas en train de dire « c'est la loi, mais on s'en fout ». Apple a été, il y a eu un jugement qui a été rendu dans une affaire où le FBI a demandé à un juge de rendre un jugement pour dire à Apple de faire un truc. Et dans un état de droit, dans le système légal normal, on peut contester un jugement. On peut faire appel, on peut expliquer pourquoi on pense que le jugement n'est pas bon, on peut Et c'est un processus tout à fait normal, un processus parfaitement légal. Apple n'est, je le répète, Apple n'est pas en train de prendre la justice dans ses propres mains. Quand il y a une décision de justice qui est rendue en France, aux États-Unis, ailleurs, on peut faire appel de cette décision de justice. Si quelqu'un fait appel d'une décision, que ça soit un quidam dans la rue ou un président d'une immense société internationale, bah, s'il peut faire appel de d'un jugement, on va pas dire « Ah, mais qui est-il pour prendre la justice dans ses propres mains ?» Il suit le processus légal normal. C'est ce qu'est en train de faire Apple. On imagine que cette affaire va continuer son évolution, non seulement dans ce cadre de ce procès, mais aller beaucoup plus loin et aller jusqu'à la Cour suprême des États-Unis. On pense que c'est ce qui va se passer. Et tout ça est un processus normal, c'est un processus légal. Donc voilà, ce sont les deux choses que je voulais, sur lesquelles je voulais appuyer, parce que quand on part dans toutes les questions sur le chiffrement, sur le terrorisme et sur tout ça, on a tendance à noyer certaines informations et du coup ces points-là ne sont pas clairs. Donc j'espère que là ils auront été suffisamment clairs pour que au moins les gens les comprennent.
Sans être enfin, je dis pas qu'il faut de la désobéissance civile, mais ça fait partie de nos libertés. Quand bien même, un gouvernement n'a pas toujours raison. C'est pas parce que le gouvernement, la police, et ce genre de choses, qu'ils ont forcément raison.
Oui,
ils peuvent faire
coup,
des erreurs. Et on a le droit, une société comme un particulier, et c'est pour ça qu'il y a des contre-pouvoirs, et que, attention, la justice, c'est pas le gouvernement non plus. Là aussi, les pouvoirs sont séparés. Et tout ça,
c'est
doit
pour ça que le FBI a fait un...
Tout ça doit rester dynamique. Et c'est une dynamique. Aux États-Unis, c'est peut-être plus clair pour eux parce qu'ils ont plus l'habitude de cette dynamique. Notamment, on voit bien que leur président, il a pas tous les pouvoirs là-bas. Les séparations des pouvoirs est peut-être plus nette aux États-Unis. Mais je vois effectivement certaines réactions, gens qui disent oh non mais attends, c'est la police là qui demande, il faut obéir quoi. Non, si tu penses qu'un ordre de police n'est pas bon, n'est pas juste, met en danger la liberté de tes consommateurs, et je veux bien que ça soit du marketing, hein, mais si le marketing c'est défendre ses consommateurs, bah, je dis que Apple remplit son rôle de société, la défense de ses consommateurs, contre quelque chose qu'elle juge... Alors, je veux pas employer le mot juge au sens ils prennent la justice, mais ils jugent que la situation n'est pas saine pour leurs consommateurs, même si
oui,
c'est une
mais
police
en même temps,
qui leur dit de le faire.
Disons que oui et non. Moi, j'estime que je paye vraiment trop d'impôts, donc j'estime que c'est pas juste, et donc je vais dire que je veux pas les payer. Non, bien sûr que non.
Non.
Tu vois, il y a une différence entre
prendre la justice. Patrick, si un jour nos impôts, on a un gouvernement un peu taré qui se met, on va pas parler de celui en ce moment, mais imaginons un gouvernement qui dise bon allez, tout le monde 90% d'impôts. Bah, j'espère qu'on dira pas OK parce que c'est le gouvernement.
Oui, mais non, non. Moi, là, ouais. Là, je te suis plus parce que à partir du moment où quelque chose, alors, soit tu fomentes une révolution et ça, c'est autre chose, soit tu te plies aux règles du pays dans lequel tu vis. Et encore une fois, je veux pas mélanger les choses. À la limite, la désobéissance civile, oui, c'est une quelque chose de particulier et ça peut se justifier. OK. Encore une fois, c'est pas ce qu'est en train de faire Apple. C'est pas de la désobéissance civile.
Oui, 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 oui.
Ils sont vraiment en train de contester une décision de justice dans le cadre légal. Donc, c'est encore autre chose. S'ils faisaient de la désobéissance civile, on pourrait avoir ce débat. Et peut-être que moi, je serais du côté d'Apple parce que je pense que ce qu'ils sont en train de défendre est important, même si c'est pour des questions marketing et des questions hypocrites. Mais, en l'occurrence, c'est pas le cas.
Et puis, il faut pas oublier qu'ils ont aidé Apple dans cette affaire. Ils ont pas, ils ont aidé à propos de l'iCloud. Simplement, il y a un moment où ils disent non, ça, on va pas le faire, quoi.
Ouais. Bon, on va pas repartir dans tout le débat. J'ai encore, je sais pas, une vingtaine de liens sur toute l'affaire. Ça continue d'animer tous les débats dans la sphère technophile depuis, je sais pas, ça doit faire un mois maintenant presque que
ouais,
ça.
Ouais, mais c'est quelque chose d'important.
C'est vraiment très important.
Il faut vraiment expliquer et comprendre parce que c'est pas simple. Il y a plusieurs niveaux d'information dans cette affaire.
Et je pense que ce qui est en train de se passer au final. C'est la meilleure chose qu'on pouvait espérer dans ce domaine, c'est que les discussions sont vraiment animée, importante. On est en train de demander l'avis des experts. Il y a eu aux États-Unis un congressional hearing, un comité du Congrès qui a demandé l'avis des experts. Et il y a eu Suzanne Lando, qui est une experte indépendante, qui a fait un témoignage exemplaire devant les députés américains. Mes témoignages vraiment exemplaires parce qu'elle est complètement indépendante et elle a expliqué tout ce qu'il fallait expliquer de manière totalement neutre et a beaucoup clarifié les choses, je pense, pour les députés. Mmh. Bon, j'arrive pas à ne pas m'emporter quand je parle de toutes ces histoires, finalement. Mais c'est important, c'est les cas vraiment où la tech est importante parce qu'elle influence plus juste que notre quotidien, comme les smartphones, et ça déjà c'est important aussi, mais ouais. C'est important, ça influence l'idée qu'on se fait de notre société. Bon, je vais continuer à réfléchir à la question, mon idée n'est pas totalement arrêtée, contrairement à ce qu'on pourrait penser en m'écoutant, et c'est important qu'on y réfléchisse, et encore une fois, c'est important que ce débat ait lieu dans le sur la place publique chez les gens qui font les lois et c'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Entre parenthèses, on n'a pas parlé de ce qui est en train de se passer en France aussi. Il y a des on a les mêmes débats qui sont en train d'avoir lieu partout dans le monde et dernier point, allez, c'est la fin de l'épisode, les gens qui ne voulaient pas écouter ont déjà arrêté d'écouter, mais il y a des gens qui pointent du doigt la complicité d'Apple avec le gouvernement chinois. Et qui disent « Ah, mais regardez, en Chine, on est à peu près certain que le gouvernement chinois peut accéder aux données stockées sur les serveurs d'Apple en Chine. » A priori, oui, c'est assez probable. Et donc, ça, je suis d'accord. Mais il y a des gens qui disent « Ah oui, mais du coup, Apple est hypocrite parce qu'ils acceptent de donner les données au gouvernement chinois, mais pas au gouvernement américain. » Et là, ça me pose un gros problème parce que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de dire. Ils sont en train de dire que, en fait, le standard qu'il faudrait suivre, c'est le standard d'un gouvernement totalitaire comme le gouvernement chinois. Et là, moi, ça ne me, je réussis plus à comprendre, tu vois, la logique dans ce raisonnement. Ouais. C'est vraiment l'exemple qu'on ne devrait pas suivre, justement, c'est celui du gouvernement chinois. On devrait regarder ce qu'ils font là-bas et se dire « Ah ok, eux, ils le font, donc on va pas faire la même chose. » Et oui, Apple est en Chine parce qu'ils sont vénaux et que c'est une société et qu'ils veulent faire de l'argent et que c'est un énorme marché. Bien sûr. Et donc, ils se sont pliés aux demandes du gouvernement chinois. Ça veut pas dire que les gouvernements... Ça ne veut pas dire que les demandes du gouvernement chinois sont acceptables dans des pays modernes, civilisés, occidentaux comme les nôtres. On essaye de notre idéal, c'est la liberté et la vous voyez, c'est
moi je sais que ce que je dis depuis le début de l'histoire, pour en avoir parlé pas mal de matins dans Techscope aussi, il y a un truc et franchement
et je te laisse le mot de la fin, tu finis,
c'est juste le mot de la fin. Cette histoire, c'est Apple versus FBI. Oh, je vous fais exactement la même histoire avec un terroriste tchétchène, Poutine et Apple, vous seriez tous du côté d'Apple. Voilà. Le truc, c'est que justement, il faut contextualiser et bien réfléchir. Je parle pour ceux qui sont plutôt à dire que Apple a tort. Il dirait peut-être qu'Apple a raison si c'était Poutine à la place du gouvernement américain ou un autre gouvernement, je dirais avec une image un peu plus sulfureuse, tu vois, et avec un terroriste un peu moins proche de, on va dire, les terroristes qui nous ont touchés nous. Tu vois ?
Je vois. Et je n'ajoute rien parce que j'ai dit que tu avais le dernier mot.
D'accord.
Et donc, on conclut cet épisode. Je crois qu'on va continuer à parler pendant des mois. J'espère que ça va se calmer un petit peu, cette histoire-là, dans les semaines à venir. Mais il est certain que ça va s'étendre puisque le processus légal dure assez longtemps. Mais on, à moins qu'il y ait quelque chose de vraiment nouveau et différent, je pense qu'on se limitera aux fins d'épisode comme on l'a fait ces deux derniers épisodes. Parce que je comprends qu'il y ait des gens qui soient un petit peu saoulés par l'histoire également. Donc voilà, on est à l'aise ici à la fin et ça se passe très bien. Jérôme,
oui,
Où peut-on te retrouver si tu es sur Internet quelque part quand tu n'es pas dans le rendez-vous tech ?
Caché au fond des bois. Non, vous pouvez me retrouver sur nowtech.tv et tous les matins, si vous voulez avoir une revue de presse de la technologie, c'est donc sur Periscope en direct entre 8h du matin et 9h du matin, mais disponible généralement dès le début d'après-midi en replay sur une chaîne YouTube qui maintenant est dédiée. On a détaché nos deux chaînes YouTube, mais tout est regroupé sous Nowtech TV sur YouTube. Vous retrouverez tout. Voilà.
Magnifique. Merci beaucoup, Jérôme. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et Facebook. L'émission est disponible sur frenchspin.fr en alternance avec le rendez-vous jeu que vous connaissez également, bien sûr, qui traite de l'actualité du jeu vidéo. Si vous êtes un petit peu joueur, je pense que vous pourrez apprécier cette émission. Et vous pouvez aussi, bien sûr, retrouver les moyens de soutenir l'émission sur patreon.com/rdvtech. On vous en a déjà parlé. Vous savez comment y accéder. C'est facile et simple et satisfaisant, comme le disent tous les patriotes qui ont contribué. 100% des patriotes recommanderaient la contribution. On vous remercie en tout cas de le faire si vous êtes intéressé. Et puis, ah, qu'est-ce que j'aime faire cette émission quand même. Tu sais, Jérôme, c'est un moment particulier entre vous et moi, et je sais que parfois je m'emporte, et puis c'est la passion hein, qui me fait parler comme ça.
C'est ça qui est bien. Mais... Et j'en profite, moi, pour prendre la tribune aussi, parce que tu as annoncé effectivement que je serais l'un des co-animateurs si on atteint le palier. Et ben, c'était pour dire d'abord que c'est un immense honneur et un privilège. Avant d'être invité parfois dans le rendez-vous tech, je suis d'abord, comme tout le monde, quelqu'un qui écoute le rendez-vous tech. Et c'est une émission, et justement les débats qu'il y a et les différents profils de gens sont intéressants. Certaines personnes avaient peur de s'ennuyer, que ça soit toujours des mêmes qui viennent, là, les deux fixes qui viennent. Donc je m'engage à prendre des accents différents à chaque fois que je viens. Donc vous aurez Jérôme en belge, vous aurez Jérôme en suisse, vous aurez...
Non, et puis on aura d'autres personnes, hein, je l'avais dit aussi.
Mais oui, en plus, voilà. Et écoutez, j'espère pouvoir faire partie de cette aventure. On y est presque, mais on n'y est pas encore. Donc, c'est pas encore gagné.
Bon, j'espère que ça va continuer, effectivement. Encore une fois, dans cette passion qui nous anime tous, sachez que dans mes emportements, c'est tout mon amour pour cette communauté qui est aussi fort, et vraiment je suis incroyablement chanceux et heureux de pouvoir faire partie, de pouvoir être l'un de vous en fait dans cette communauté, parce que on est tous au même niveau dans notre amour de toutes ces questions. Donc merci à vous tous de nous autoriser à vivre tout ça ensemble. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Je fais plein de bisous à mon ami Jérôme Kainborg et encore plus de bisous à vous tous qui nous écoutez. Ciao.
Et bien, de même. Ciao tout le monde.